100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, la guerre qui oppose depuis plus d'un mois les séparatistes du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Le conflit s'envenime chaque jour un peu plus. En début de semaine, l'Arménie qui soutient les séparatistes accusait l'armée azerbaïdjanaise, soutenue elle par la Turquie, d'avoir bombardé son territoire, tuant un civil. Et pendant ce temps, la petite minorité arménienne de Turquie, elle, vit dans l'angoisse, prise entre le marteau et l'enclume en quelque sorte, en vivant dans un pays qui soutient inconditionnellement l'Azerbaïdjan et qui qualifie l'Arménie d'État voyou. Le discours belliqueux et nationaliste, largement relayé par les médias locaux, est synonyme d'inquiétude pour les 60 000 Arméniens de Turquie. Le reportage d'Anand Lauer à Istanbul.
Au bout du fil, Armen, arménien de Diyarbakır, grande ville du sud-est de l'Anatolie, plus proche à vol d'oiseau de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan que d'Istanbul, où vivent la plupart des 60 000 Arméniens de Turquie. Depuis la reprise du conflit dans le Haut-Karabakh, Armen se dit inquiet, tendu, stressé.
Je ne vais plus au café. Vous savez, au café, on parle de politique. Mes voisins, ils croient ce qu'écrit la presse turque, qui n'écoute qu'un seul camp dans ce conflit et pas l'autre. C'est pour ça que je suis tendu, même là, au téléphone. Bon, je vous parle, mais je ne suis pas tranquille.
Armen a en tête le discours anti-Arménie propagé depuis plus d'un mois dans la plupart des médias turcs, qui dérape facilement en discours anti-arménien. Il pense aux klaxons et aux drapeaux de l'Azerbaïdjan agités à quelques reprises sous les fenêtres des quartiers d'Istanbul où les Arméniens sont nombreux.
Ici, on n'a pas vu ce genre de convoi, mais un grand drapeau de l'Azerbaïdjan a été accroché sur les murailles de Diyarbakır, à côté d'un grand drapeau turc, sous protection policière. J'ai peur qu'il arrive du mal aux Arméniens d'ici. On ne sait jamais ce qui peut se passer. J'espère que cette guerre s'arrêtera vite, qu'une paix sera signée. C'est tout ce que je souhaite.
Difficile dans un tel climat de rester serein quand on fait partie d'une minorité et quand on partage une mémoire aussi douloureuse que celle des Arméniens de Turquie. Le génocide de 1915 qui a décimé la population arménienne d'Anatolie à la fin de l'Empire ottoman, mais que l'État turc, son successeur, n'a jamais reconnu, reste un traumatisme, y compris pour les plus jeunes générations. Pour ceux, et ils sont rares, qui s'expriment publiquement dans la presse ou sur les réseaux, l'inquiétude est une habitude. C'est ce que raconte Vartan Estukyan, 30 ans, chef du service culture de l'hebdomadaire Agos, publié à Istanbul en turc et en arménien.
Je ne me souviens pas d'une seule période en Turquie où je me serais senti à l'aise. Ah si, quand j'étais enfant, mais alors je n'étais au courant de rien. Quand j'ai commencé à acquérir une conscience politique à l'adolescence, j'ai compris que les Arméniens de Turquie, qui remettaient en cause certaines choses, ne pourraient jamais vivre en paix.
Il y a quelques mois, Vartan a subi des menaces sur son compte Twitter. Il a déposé plainte, mais le parquet a classé sans suite. Alors depuis la reprise des combats dans le Haut-Karabakh, le jeune homme s'est mis en retrait sur les réseaux sociaux, un geste d'autoprotection.
La première raison, c'est que je veux éviter de provoquer des réactions. Les dernières menaces que j'ai reçues m'ont vraiment beaucoup affecté. Et puis, non seulement je n'écris plus trop sur Twitter, mais je ne regarde plus Twitter en ce moment. Je sais que ce que je pourrais lire risque aussi de m'affecter. Mais pour prendre conscience de tout ça, j'ai pas besoin de lire Twitter. Il me suffit de discuter avec mes amis arméniens apolitiques. Avec eux, d'habitude, on ne parle pas de politique, mais là, nous sommes concernés au premier chef. Et je ressens leur inquiétude.
Ara Kochonian est le rédacteur en chef de Jamanak, quotidien en langue arménienne qui vient de fêter ses 113 ans. Il reconnaît des inquiétudes, mais aussi beaucoup de peine dans sa communauté.
Des images de guerre, d'où qu'elles proviennent dans le monde, sont toujours traumatisantes pour les Arméniens de Turquie et pour les Arméniens en général, en raison des grandes douleurs que nous avons subies dans l'histoire. En ce moment, nous souffrons avant tout du retour de la violence dans le Caucase, et pas seulement. C'est important de le dire, parce que des Arméniens y meurent. Ce lourd climat encourage, malheureusement, la mise à l'écart de ceux qui sont perçus comme étrangers à la société.
Ces dernières semaines, la tension est telle que certains Arméniens la comparent au mois qui avait précédé l'assassinat à Istanbul en janvier 2007 du journaliste arménien Randink, fondateur de l'hebdomadaire Agos. Ara Kochonian refuse cette comparaison.
Tous les membres de la communauté arménienne de Turquie ne vivent pas les tensions actuelles de la même manière, avec la même psychologie, mais je ne pense pas qu'il soit pertinent de faire en permanence référence à la période qui avait précédé cet assassinat. Il est vrai qu'avant la mort de Randink, nous avions, en tant qu'Arméniens, vécu beaucoup de choses qui nous avaient beaucoup inquiétés et attristés. Mais souvenons-nous aussi qu'après cet assassinat, la Turquie et l'Arménie avaient entrepris de normaliser leurs relations. Certes, cela n'a pas abouti, mais je me souviens de ces années comme une période très optimiste pour les Arméniens de Turquie.
Vartan Estoukian, le jeune journaliste d'Agos, confie au contraire son pessimisme et son souhait de quitter la Turquie.
À 18 ans, je voulais déjà partir, mais je n'y arrivais pas, car je me disais que c'était injuste envers mes ancêtres, parce qu'ils étaient morts pour que je puisse vivre ici. J'ai réussi à me libérer de cette psychologie. Aujourd'hui, je rêverais d'aller en Allemagne, mais je ne peux pas partir parce que je n'en ai pas les moyens. Mais je dis à ceux qui peuvent partir de le faire. Ils sont très nombreux d'ailleurs.
C'est ce qu'a fait récemment un proche de Vartan, qui craint de voir partir un à un les jeunes Arméniens de Turquie. Девушка бродит, одна по пустыне.
En Biélorussie, c'est un autre conflit qui déchire le pays, conflit électoral cette fois. Depuis près de 3 mois, la contestation à la réélection d'Alexandre Loukachenko, 26 ans au pouvoir, ne faiblit pas. Chaque semaine, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent dans les rues de la capitale pour dénoncer les résultats de la présidentielle et réclamer la démission d'Alexandre Loukachenko. Et ce, malgré les arrestations et la répression. Anaïs Marin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme en Biélorussie. Dimanche dernier, 300 personnes ont été arrêtées lors de la manifestation hebdomadaire de l'opposition. La semaine d'avant, c'était 500. Quelle est la situation en Biélorussie? Les autorités resserrent la vis en ce moment?
Oui, c'est mon impression. En tout cas, ils ne sont pas du tout enclins à aller vers un dialogue qui serait pourtant la seule façon de sortir de l'impasse, à la fois pour améliorer la situation des droits de l'homme et puis sortir de la crise politique actuelle.
Vous disiez il y a quelques semaines que les violences lors des arrestations s'étaient même intensifiées.
C'est-à-dire que les personnes qui exercent leur droit à la liberté d'expression en participant à ces manifestations pacifiques sont victimes à la fois de harcèlement, ça peut prendre des formes judiciaires, mais d'autres formes aussi plus subtiles, qui sont donc dirigées à la fois contre des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des avocats. C'est les trois grandes catégories de personnes en fait qui sont du coup empêchées de travailler.
Comment ça? Est-ce que vous avez des exemples?
Eh bien, il y a eu plusieurs avocats qui ont été soit arrêtés, soit assignés à résidence. Parmi les pressions qui m'inquiètent aussi, c'est par exemple la menace de saisir les enfants. C'est-à-dire que quand on a un couple, par exemple, qui sont des défenseurs des droits de l'homme, qui sont arrêtés lors d'une manifestation un dimanche, même si leurs enfants mineurs sont sous la garde, par exemple, d'une grand-mère ou d'une tante ou d'une voisine, quand ces personnes vont passer 10 ou 15 jours en détention administrative, eh bien, les autorités des protections de l'enfance vont saisir les enfants et les placer donc dans des orphelinats ou dans des centres. Et ensuite, c'est extrêmement difficile de les récupérer. Et c'est évidemment une source supplémentaire de stress pour les parents et une forme de pression, surtout pour les mères, ou les mères seules en particulier, puisque ça les pousse à l'autocensure. Donc, de nouveau, c'est une façon détournée de les empêcher de participer aux manifestations ou de défendre ceux qui prennent le risque d'y participer. Et j'ai des contacts directs avec beaucoup d'ONG de défense des droits de l'homme et des victimes qui me rapportent avoir reçu un coup de téléphone de l'école, de la municipalité ou du KGB, en fait, pour leur dire vous avez intérêt à rester à carreau, sinon on va placer votre enfant sur la liste des enfants issus de familles potentiellement en danger. Ils estiment que c'est un danger pour l'avenir de l'enfant, évidemment.
Combien de personnes sont emprisonnées actuellement pour leur opinion politique?
À l'heure actuelle, les organisations de défense des droits de l'homme reconnaissent à 101 personnes le statut de prisonnier politique, parce qu'ils ont essayé d'exercer leurs droits fondamentaux au regard de
Ce que vous décrivez, c'est à la fois de la violence utilisée lors des arrestations, du harcèlement judiciaire. L'État se saisit de tous les moyens pour faire peur aux opposants. Ça a augmenté, ça, depuis que la contestation a commencé il y a 3 mois.
Il faut bien comprendre que c'est systémique. On a cette tendance lourde et je vois pas d'amélioration. Et c'est ça qui est inquiétant parce que les gens, évidemment, sont fatigués. Je veux dire, ça s'accumule. On peut avoir... Elle est en détention provisoire pendant 10 jours, être réarrêtée à la sortie, retourner en détention, se mettre en grève et puis perdre son emploi. Pour les étudiants qui ont dû manquer les cours parce qu'ils étaient en détention, ensuite ils perdent leur bourse. Vous voyez, donc c'est tout un enchaînement, donc c'est difficile à mesurer, mais c'est vrai que les personnes qui sont touchées, et il y en a donc de plus en plus, et tout ça pour des choses qui ne constituent pas des crimes, il faut bien le comprendre. Et à côté de ça, les personnes qui ont déposé des dossiers très solides demandant réparation pour des tortures qu'ils ont subies en détention, en particulier durant les 3 premiers jours après le scrutin du 9 août, il n'y a aucune procédure criminelle qui a encore été ouverte. Il y a un manque de justice flagrant pour ces personnes qui ont elles-mêmes été victimes, qui ont documenté leurs plaies, leurs blessures. Et ces personnes sont elles-mêmes considérées par les autorités comme coupables. Et évidemment, les auteurs de ces tortures, qui sont des crimes extrêmement graves, ne sont même pas inquiétés.
Merci Anaïs Marin. Je rappelle que vous êtes rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme en Biélorussie.
Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner.
Alors que l'Europe retient son souffle dans l'attente des résultats de la présidentielle aux États-Unis, on vous parle d'un concept directement importé d'Amérique du Nord, les supermarchés coopératifs, des commerces très engagés. À Brooklyn, à New York, il en existe depuis les années 70, mais dans l'Hexagone, cela fait 4 ans à peine que ces supermarchés s'implantent de plus en plus dans les grandes villes. À Lille, il s'appelle le Super Quinquin, créé en 2016 à 2 stations de métro de la gare de Lille. Le concept séduit, Lise Verbeck.
À première vue, le Super Quinquin ressemble à n'importe quel supermarché, avec des rayons remplis de produits en tout genre, fruits et légumes de producteurs locaux, poissons, viande, produits d'hygiène, du bio et du non-bio.
Une avocat, c'est à la pièce ?
Ben oui. 1,87, il me semble.
À ceci près que les clients sont aussi propriétaires du supermarché. Chaque membre verse 100 euros minimum de part sociale dans la coopérative. En échange, il peut y faire ses courses et il s'engage à faire fonctionner bénévolement le magasin en donnant 2h45 de son temps par mois pour la mise en rayon, tenir la caisse, etc. Ce jour-là, Aurélien est chargé de s'occuper du rayon vrac.
Gentil corail.
Donc j'accompagne les clients qui sont aussi des coopérateurs pour se servir, pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et derrière, moi, je suis garant du fait que les sacs sont bien étiquetés avant le passage en caisse.
Il vient tout juste de prendre sa carte de membre au Super Quinquin. Il a été séduit par le concept.
C'est super enthousiasmant parce que on a enfin un supermarché avec des produits divers et en même temps, pour grande majorité locaux ou qui respectent davantage l'environnement. Ça permet de découvrir plein de choses et de ne pas être pollué au niveau des rayons de plein de produits avec un énorme packaging. Et qui en fait est rempli de cochonneries pour la santé, quoi.
C'est ça qui vous a convaincu d'adhérer
Ça et puis la gouvernance, c'est-à-dire on décide tous un peu de ce qui se passe dans le magasin. Et quand on achète un produit, c'est aussi pas seulement le produit en lui-même, mais la répartition de l'argent derrière. Les producteurs sont bien mieux rémunérés. Ce que récupère Super Quinquin, c'est très transparent. Et il n'y a pas de rémunération d'actionnaire en bout de chaîne. Donc vraiment, ce qu'on paye sert vraiment au fonctionnement du magasin. Et en plus, avec un trait bien dessiné pour ceux qui ont produit les produits qu'on consomme, tout simplement.
Hop. Est-ce que vous faites ticket de carte bleue ou ticket de caisse ?
En effet, le supermarché fonctionne avec des marges fixes, c'est-à-dire qu'il rajoute 20% à chaque produit acheté au fournisseur.
On a les bureaux de l'équipe.
Nicolas Philippe, son directeur et cofondateur.
On ne cherche pas à avoir une stratégie marketing d'appel, etc. C'est prix fixe partout et ça va permettre de payer les charges. Et en effet, c'est une marge qui est volontairement très réduite. Hein, et on est plutôt en moyenne dans les magasins à 35, plus que 20. Globalement, c'est-à-dire que nous, voilà, on va avoir des produits qu'on va retrouver des produits d'appel dans les magasins traditionnels où on va être à peu près au même prix finalement. Et par contre, des produits sur lesquels on va être beaucoup moins cher, parce qu'en effet, c'est des produits qui sont beaucoup plus margés.
Rajoutez à cela un magasin qui marche quasiment uniquement avec des bénévoles, même s'il y a tout de même 5 salariés pour les encadrer, ce qui donne un panier moyen de 10 à 20% moins cher que dans les supermarchés classiques. Un attrait pour les coopérateurs, mais avec aussi une volonté de donner accès au mieux manger, car le Super Quinquin se trouve au cœur de Fives, un ancien quartier industriel où les habitants ont des revenus modestes.
On défend un projet économique, mais aussi social. Et nous, on s'est dit, voilà, il n'y a pas d'enseigne bio parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat, globalement. Et on s'est dit, si on veut toucher des gens sur manger différemment, manger autrement, c'est en allant dans ces quartiers-là au plus près, même si ça reste un challenge, encore aujourd'hui, d'intéresser, de mobiliser les gens sur une alimentation avec un critère qui est autre chose que le prix. Parce que clairement, on gagnera jamais la guerre du prix avec les grandes enseignes spécialisées. Il y aura toujours des choses moins chères ailleurs. Nous, quand on dit qu'on arrive à être moins cher, c'est sur des produits à qualité équivalente. D'accord. Mais on se dit qu'en étant là, on arrive petit à petit, en travaillant avec les associations, en travaillant avec la mairie, les acteurs sociaux du quartier, à faire venir progressivement des gens et à faire évoluer aussi le magasin dans ce sens-là pour que ce soit de plus en plus ouvert.
Le Super Quinquin compte 1300 adhérents aujourd'hui, ce qui a notamment permis à la coopérative de déménager dans des locaux plus grands. Frédéric est une adhérente de la première heure et elle vient de terminer son service mensuel. Elle fait ses courses tranquillement.
C'est vraiment hyper agréable, c'est hyper joli. Il n'y a pas cet aspect agressif qu'il peut y avoir dans les supermarchés habituellement. Voilà, l'ambiance est apaisée, il n'y a pas une surquantité de produits. Il y a peut-être moins de choix, mais moi ça me va bien. Et puis voilà, il y a de la musique, c'est cool. Voilà, on sent que le rythme n'est pas speed, c'est agréable quoi.
Donc ça ferait 42,07 € s'il vous plaît.
L'objectif est d'atteindre les 2000 membres dans le supermarché coopératif pour notamment permettre de mettre en place de nouveaux services assurés par les bénévoles, comme par exemple faire les courses pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, créer des ateliers sur le zéro déchet ou encore donner des coups de main ponctuels aux maraîchers locaux.
Au revoir, merci, bonne journée.
A dit que les peintures murales ou autres graffitis étaient réservés aux grandes métropoles. En Espagne, une vingtaine de villages de la péninsule est désormais connue pour abriter des centaines de fresques murales au sein de ces centres historiques. Les régions les plus touchées par le dépeuplement sont aussi souvent les plus dynamiques pour soutenir le street art et tenter de séduire ainsi de potentiels touristes ou habitants. Le reportage de notre correspondante Diane Cambon.
En arrivant sur la petite route qui traverse le village de Losar de la Vera au nord de l'Estrémadure, on tombe face à une énorme fresque colorée qui recouvre toute la façade de l'ancienne maison de village blanchie à la chaux. L'artiste Roche, un madrilène expert en peinture murale, explique son dessin.
En regardant la photo de la façade que j'allais peindre, j'ai vu qu'il y avait la montagne de Gredos derrière. Et j'ai eu l'idée de compléter ce paysage avec la fresque. C'est pour cela que j'ai dessiné des traits horizontaux pour donner l'impression de continuité avec des lignes de la montagne.
Pour Maria, une habitante de 78 ans, l'idée reste trop abstraite, mais elle apprécie le travail.
C'est très gai, cette façade était laide, elle était en mauvais état, mais maintenant c'est joyeux, c'est juste dommage d'avoir retiré les nids d'hirondelles, mais elles chercheront une autre façade.
Pour l'instant, seules 3 maisons se sont prêtées au jeu pictural. Financé par la région de Cáceres, ce projet concerne une dizaine de villages de moins de 3000 habitants. Pour Jesús Mateo, artiste et organisateur de l'événement, la réaction positive des villageois encourage d'autres initiatives de la sorte dans les zones rurales oubliées.
Les habitants sont très satisfaits, ils nous encouragent. Normalement, dans ces villages, il n'y a pas beaucoup d'artistes, ou du moins d'artistes qui travaillent ce genre de technique. Et je crois que c'est important de diffuser la culture dans les endroits les plus éloignés, où les gens n'ont pas accès à ce genre d'événement.
De plus en plus de villages se mettent sur les listes pour accueillir ces artistes urbains et attirer ainsi un nouveau type de tourisme qui est avide d'activités culturelles à l'air libre à l'heure du Covid. La présence chaque fois plus nombreuse de citadins en recherche d'espaces verts incite également à diversifier les offres culturelles.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Pour nous retrouver à toute heure et partout, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr, à la rubrique podcast ou sur votre plateforme d'écoute. À demain.